Vous écoutez RFI, il est 9h30 à Paris, 7h30 en temps universel. Nemo en piste pour le journal.
Et à la une, de précieux témoignages des habitants de Khartoum et de ses alentours restés malgré des combats toujours en cours autour de la capitale soudanaise. Ils relatent un véritable calvaire. RFI vous propose une série de reportages sur place tout au long de la semaine. Des camions de marchandises bloqués pendant des heures, des motards contraints de poser pied à terre plusieurs jours, parfois pour parcourir une centaine de kilomètres. Vous entendrez la consternation des usagers de la route qui relie Goma au territoire de Massissi. La RDC ou les récents signe d'apaisement avec le Rwanda font réagir. Le mouvement citoyen La Lucha salue l'initiative commune vers un accord de paix dans l'Est, mais alerte sur la complaisance d'un éventuel accord. Reportage au sein de la prison de Ngaragba à Bangui. Là-bas, ils sont près de 2000 à occuper les cellules, alors que le bâtiment a été construit pour accueillir 300 personnes. Et puis la bonne gestion des déchets électroniques. Au cœur de la 17e réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle, la majeure partie des déchets non traités finit sur le continent africain. RFI vous propose donc tout au long de la semaine une série de reportages dans les zones de combat aux alentours de Khartoum. Le Soudan est entré il y a quelques jours dans sa troisième année de guerre, la capitale que l'armée du général Al-Burhan affirme avoir repris le 25 mars dernier. Pourtant, les affrontements se poursuivent avec les paramilitaires du général Emmeti, notamment au sud et à l'ouest de la ville, où les civils vivent un calvaire. Certains d'entre eux se sont exprimés au micro de notre envoyé spécial, Gaël Lalex.
À Oumbada, dans la banlieue ouest de Khartoum, les habitants vivent au rythme des canons. Kafi Bourgane a 82 ans, il est à bout de force.
Quand on entend les bombardements, on se couche sous les lits pour se protéger. C'est terrorisant, c'est impossible de dormir. Jour et nuit, les FSR bombardent, puis l'armée bombarde. On ne peut pas fermer l'œil.
Samira Idriss a quitté sa maison du quartier d'Alara, encore tenue par les FSR. Avec sa famille, elle vit chez des proches à Oumbada. Malgré les tirs croisés, elle s'y sent plus en sécurité.
Les FSR venaient chez nous n'importe quand et ils criaient « Donnez-nous vos enfants, vos filles, tout ce que vous avez ». Et ils prenaient tout de force. Ils n'ont pas pris mes filles, mais mes voisins n'ont pas eu cette chance.
Les combats se rapprochent. Aïcha Mohamed Nourienne a décidé de partir. Ce jour, avec sa famille, elle quitte Oumbada et le logement de fortune qui les accueille.
Les FSR ont fermé les marchés. Il est très dur de trouver de la nourriture et il faut marcher des kilomètres pour l'eau. Nous sommes trois familles ici et nous ne pouvons pas rester. Les hommes sont partis chercher de l'eau et de la nourriture. On décidera ensuite où aller.
Comme plus de 11 millions de Soudanais aujourd'hui déplacés, la famille d'Aïcha s'installera dans une école d'Omdurman, transformée en camp de fortune. Gaël Alex, de retour de Khartoum, Nairobi, RFI.
Nous sommes dans le Nord Kivu dans ce journal, sur la route qui relie Goma au territoire de Massissi, axe hautement stratégique pour approvisionner la capitale provinciale et qui ouvre la voie également au territoire de Walikale, très riche en minerais. Seulement ceux qui l'empruntent font face à un état de délabrement avancé. Le récit de Paul Lorgerie.
Le tronçon Matanda Osso Kisuma de l'axe qui relie Goma à Massissi est pavé d'énormes trous. Ici, plusieurs camions transportant des marchandises sont bloqués dans la boue. Migo Safari fait partie des chauffeurs coincés sur la route.
Tous ces véhicules sont et nous aussi on part.
Quand ces véhicules parviendront à se désembourber, nous pourrons partir. S'il y avait du goudron, l'itinéraire ne prendrait que 2 à 3 heures. Mais là, cela peut durer entre 2 et 3 jours.
3 jours à 2 jours.
Une situation qui n'arrange pas les affaires des transporteurs. Agouma, lui aussi chauffeur, ne comprend pas comment cette route peut encore être dans cet état, malgré son importance stratégique.
Sur les routes, les ponts ont vieilli. J'apporte du riz à Roubaïa, mais je ne sais plus par où passer. Je viens de faire 4 jours de voyage et ma marchandise pourrit. Tu vois, des minerais passent sur cette route alors qu'elle n'a pourtant jamais été construite.
Un calvaire qui n'épargne pas les motards. Souvent obligés de descendre de moto, ils se retrouvent à faire des semaines de marche. L'un d'eux transporte de larges sacs de manioc sur sa selle. Embourbé, il est obligé de mettre les gaz pour se sortir du bourbier.
La route est désagréable, en tout cas nous sommes parmi les souffrants. La route est devenue très difficile, pas totalement fréquentable. Je viens de Pinga, je viens de Goma. Je fais une semaine et deux jours, à peine 140 km.
Récemment nommé par la FCM23, les autorités provinciales affirment que des travaux de réhabilitation seront bientôt lancés.
Paul Lorgerie, 8h35 à Kinshasa, la République démocratique du Congo encore, où le ministre belge des Affaires étrangères est arrivé hier soir. Une rencontre entre Maxime Prévost et Félix Tshisekedi est prévue ce lundi. Bruxelles qui a salué les récents signes d'apaisement entre Kinshasa et Kigali, notamment la déclaration de principe signée à Washington, c'était vendredi soir, mais aussi le communiqué signé par la FCM23 et par les autorités congolaises. Un texte qui a fait réagir la Lucha, le mouvement citoyen salue un premier pas, mais met en garde contre ces accords de paix qui récompensent les criminels au détriment des victimes. Stuart Mwindo de la Lucha.
On sent en fait que tous les processus de paix mettent les rebelles, les belligérants au premier plan et ignorent les victimes. Alors que c'est en fait cette culture de l'impunité qui finalement entretient les cycles de la violence. Il suffit de voir par exemple ceux qui commettent les crimes aujourd'hui au Congo, ce sont les mêmes qui les commettaient il y a 30, il y a 20 ans. Ça veut dire que si par le passé il y avait eu un véritable processus de justice, peut-être qu'on ne serait pas en train de vivre la crise sécuritaire actuelle. Donc pour nous, il est temps en tout cas que la justice soit mise au centre de ce processus de dialogue. Pour nous, il était question notamment de rappeler les trois préalables qui doivent être respectés pour qu'un accord de paix contribue réellement au rétablissement effectif de la paix et la sécurité à l'est du Congo. Premièrement, de ne pas accorder une amnistie générale aux responsables des crimes qui ont été commis au cours du conflit. Deuxièmement, ce n'est pas intégrer de manière collective tous les rebelles dans l'armée nationale. Et troisièmement, c'est de ne pas accorder des responsabilités politiques aux rebelles.
Stuart Mwindo du mouvement citoyen La Lucha avec Alexandra Brangeon. Reportage à présent au sein de la prison centrale de Garagba dans le 7e arrondissement de Bangui où une messe placée sous le signe de l'espoir a été organisée récemment. Là-bas, ils sont près de 2000 prisonniers pour une capacité estimée à 300 personnes. De quoi inquiéter la société civile mais aussi donc l'église catholique centrafricaine. Rolf Steph Domialeux.
La messe se déroule à ciel ouvert dans la concession de la maison carcérale de Garagba. Un hôtel est dressé au centre et près d'un millier de prisonniers prennent place sur des bancs. Soutenir, écouter, conseiller et guider, Salif, un ancien prisonnier, fait partie de l'équipe.
J'ai vécu des périodes sombres dans les cellules de cette prison. La surpopulation nous obligeait à nous entasser comme des animaux. L'accès aux soins était difficile, les repas étaient rares, malsains.
Le cardinal Dieudonné Zapalainga a axé son homélie sur la prise de conscience, l'amour du prochain et la nécessité de redevenir un bon citoyen.
La prison de Naragba est très surpeuplée parce que la majorité des détenus y passent des années sans être jugés. La justice doit faire son travail afin de libérer ceux qui sont injustement arrêtés. Je m'adresse aussi à vous, mes frères détenus. Le jour où Dieu vous accordera la liberté, ne commettez aucune infraction qui vous ramènera à Naragba.
Pour pallier ce problème, le ministre de la Justice, Arnaud Dubaï Abazen, dévoile les projets du gouvernement visant à désengorger les prisons.
Nous travaillons à des réformes de fond, notamment en matière de détention préventive, de modernisation des procédures judiciaires. Notre vision est celle d'un système pénitentiaire plus moderne, plus humain, afin de faciliter le traitement des dossiers des compatriotes en détention préventive, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.
L'Église catholique a également offert un don constitué de kits vivriers, de médicaments et de vêtements aux prisonniers. Rolf Steve Demerleux, Bangui, RFI.
C'est aujourd'hui à Genève, en Suisse, que s'ouvre la 17e réunion de la conférence des parties à la Convention de Bâle. Cet accord, entré en vigueur il y a plus de 30 ans maintenant, qui vise à réguler le transport et le traitement des déchets dits dangereux, des déchets notamment électroniques, qui finissent bien souvent sur le territoire africain. Les enjeux de ce rendez-vous avec Igor Strauss.
Selon un rapport des Nations Unies, en 2022, 62 millions de tonnes de déchets électroniques ont été produites à l'échelle mondiale, un chiffre qui devrait atteindre les 82 millions de tonnes en 2030. Mais seuls 22% sont recyclés, le reste finit en grande partie sur le continent africain et empoisonne les habitants, les sols, l'air et l'eau. Pourtant, depuis l'entrée en vigueur de la Convention de Bâle en 1992, l'exportation des déchets dangereux d'un pays vers un autre est strictement interdite. Mais selon Edem d'Almeida, fondateur togolais d'Africa Global Recycling, de nombreux pays occidentaux continuent de les exporter en présentant une grande partie de leurs équipements défectueux comme des appareils d'occasion. Pour Edem d'Almeida, la quantité quantité de déchets électroniques sur le continent est donc largement sous-évaluée puisqu'elle ne prend pas en compte ce marché informel des produits d'occasion. Pour lui, c'est aux États de surveiller ce qui rentre sur leur territoire pour que l'Afrique ne se transforme pas en dépotoir de la planète. La bonne gestion de ces déchets électroniques sera donc au cœur des négociations de cette 17e réunion de la conférence des parties à la Convention de Bâle.
Igor Strauss du service environnement climat de RFI. Et puis vers une numérisation des données de santé sur le continent. C'est en ce sens qu'étaient réunis à Dakar à l'Institut Pasteur des représentants de plusieurs pays, le Rwanda, l'Éthiopie, le Mali ou encore à domicile le Sénégal. De quoi dresser un état des lieux et de partager différentes expériences. Gwendal Lavina était sur place.
Les progrès ces dernières années dans le domaine sont immenses, insiste le docteur Serge Bataliak du bureau régional de l'OMS pour l'Afrique.
Beaucoup de mécanismes se sont mis en place, notamment de télémédecine, de téléconsultation. Vous êtes dans un village éloigné, mais vous êtes capable de bénéficier des soins de cardiologie, des soins très pointus, même étant à distance. Un patient qui se retrouve dans une ville, un autre soignant peut avoir accès au dossier et donc apporter les processus cliniques qu'il faut pour améliorer la santé de la personne.
Mais ce processus ne bénéficie pas seulement aux patients, explique le docteur Abdourahmane Sow, directeur de la santé publique à l'Institut Pasteur de Dakar.
Cette digitalisation aujourd'hui constitue une opportunité pour renforcer le système de santé, mais aussi c'est un outil important de planification sanitaire qui nous permet vraiment de baser nos décisions sur des données probantes.
Parmi les pionniers sur le continent, le Rwanda, dès le début des années 2000 et sans trop de moyens, Jean-Marie Vianney du département de l'informatique de santé de l'Université du Rwanda.
Dans mon pays, on a commencé avec ce qu'on appelle open source, les applications dont le source code est gratuite, avec un serveur qui peut coûter 10 000 dollars américains. Une institution publique ou privée peut commencer avec ça.
Au Sénégal, les autorités espèrent faire un modèle de leur programme de digitalisation du système de santé tout juste présenté et dont le coût est estimé à 30 milliards de francs CFA. Gwendal Lavina, Dakar, RFI.
Et vous en lisez plus sur RFI.fr, c'est le dossier du jour de la rédaction Afrique. À vous, André Anne Mellard.